jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur la longue histoire, la préhistoire de notre humanité, en nous demandant non seulement quand, mais surtout comment sommes-nous devenus humains? Y a-t-il eu plusieurs manières différentes de l'être, comme semblent le démontrer les récentes découvertes de nouvelles espèces humaines aujourd'hui disparues? Et qu'est-ce que ça change? Comment rajouter toutes ces branches dans nos arbres phylogénétiques, dans nos représentations toujours plus buissonnantes? Comment penser l'évolution humaine à la lumière de la paléontologie, mais aussi de la génétique et des sciences cognitives? Comment réviser nos préjugés sur ces hommes préhistoriques qui étaient aussi des femmes préhistoriques? Comment articuler évolution biologique et culture, émergence du langage, des outils et de toutes les formes d'art pour comprendre ce que nous sommes devenus? Voilà l'immense tâche à laquelle s'est attelée notre invitée, la philosophe et historienne des sciences Claudine Cohen, spécialiste de l'histoire de la paléontologie et de ses représentations dans son dernier ouvrage « Nos ancêtres dans les arbres », un titre qui mérite explication autour de la question « Comment penser l'évolution humaine ?» Bienvenue pour nous remettre en question.
Je crois que la question qui avant était assez simple, qu'est-ce qu'être humain ? La question c'était, quelles ont été les étapes qui ont abouti à la naissance de nous-mêmes, de nos ancêtres, des êtres humains. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être humain? Une résonance beaucoup plus étrange et beaucoup plus intéressante, c'est combien de façons différentes y a-t-il eu d'être humain? Et combien de façons possibles y aurait-il pu avoir d'être humain? Et quelle part portons-nous en nous de ce qui constituait une petite partie de ces autres branches de l'humanité ou de nos ancêtres préhumains?
Interrogation de l'immunologiste et conteur Jean-Claude Amezen que vous éclairez en soulevant bien d'autres questions tout aussi philosophiques sur notre humanité, sa préhistoire, son évolution et son devenir dans votre dernier ouvrage, Claudine Cohen. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes donc philosophe et historienne des sciences, spécialiste de l'histoire de la paléontologie et de ses représentations, directrice à l'EHESS, au Centre de recherche sur les arts et le langage, et à l'École pratique des hautes études, en section sciences de la vie et de la terre. Vous êtes également, Claudine Cohen, en plus de toutes ces casquettes connues et reconnues pour vos ouvrages, allez, on en cite deux, La femme des origines et Un néandertalien dans le métro. Vous venez de publier, donc aux éditions du Seuil, cet ouvrage dont le sous-titre « Penser l'évolution » nous a inspiré cette émission, mais dont le titre mérite tout de suite une explication. Nos ancêtres dans les arbres. Ce n'est pas du tout un ouvrage sur nos ancêtres arboricoles, Colin Cohen.
Non, c'est un petit peu un jeu de mots. Évidemment, j'aurais pu parler de ces très lointains ancêtres qui vivent dans les arbres encore aujourd'hui, enfin dont les ancêtres même vivaient dans les arbres, les grands primates, les singes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit plutôt d'une réflexion sur donc l'évolution humaine à travers ces schémas évolutifs qui sont très importants, qui constituent le langage des sciences de l'évolution et qui sont représentés comme des espèces d'arbres avec des branches. D'ailleurs, Jean-Claude Amezen parlait bien de branches de l'évolution humaine. Alors, des branches qui sont abstraites, certains même en ont dessiné des branches beaucoup plus artistiques, mais qui représentent donc ces embranchements de notre évolution.
Et une évolution même qui n'est jamais linéaire et qui est toujours justement en embranchement, qui se diversifie, qui sont de plus en plus nombreux finalement.
Voilà. Alors, il y a évidemment tout un pan de l'histoire de la paléanthropologie humaine qui a essayé de coller cette évolution sous la forme d'une ligne. Et c'est le cas de beaucoup de préhistoriens, de paléontologues, surtout au XIXe siècle, parce qu'on avait peu de choses et qu'il fallait les aligner pour donner le sens d'une évolution. Mais de plus en plus, et à mesure qu'on rencontre de plus en plus d'espèces, et d'ailleurs nous le savons avec toutes ces découvertes extraordinaires qui ont eu lieu, en particulier en Afrique, à partir des années 1970, on a parlé de Lucie, et aujourd'hui on retrouve presque tous les jours de nouvelles espèces, que ce soit sur le terrain, que ce soit même dans les éprouvettes des généticiens avec l'homme de Denisova, eh bien, toutes ces espèces, on les case non plus du tout sur une ligne qui va de A à B, le B étant le triomphe de ce que nous sommes, hein, et ça aussi, c'est à critiquer.
C'est ça, c'est pas du tout ça, en
réalité. C'est pas du tout ça, mais sur un arbre qui devient de plus en plus un buisson. Un buisson. Et c'est Gould qui a beaucoup insisté sur cette
Stephen
métaphore.
Stephen Jay Gould, évolutionniste.
Le grand évolutionniste américain, il a énormément insisté là-dessus pour dire que, au fond, l'évolution n'est pas linéaire du tout, qu'elle est très, très ouverte à la diversité. Et c'est de cela aussi que parlait Jean-Claude Ameisen, cette diversité qui est étrange pour nous. Hein, parce qu'elle nous oblige à penser...
Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une espèce humaine sur Terre,
aujourd'hui,
on est bien
d'accord.
Aujourd'hui,
nous sommes une seule espèce sur toute la surface du globe. Une espèce, ce sont des individus interféconds, des gens qui peuvent se reproduire entre eux. Mais il faut que nous changions un petit peu notre mode de pensée pour comprendre qu'il y a eu des périodes dans l'histoire évolutive où, dans l'histoire humaine, dans la profondeur des temps géologiques, où il y a eu plusieurs espèces humaines.
Qui ont cohabité, en plus, ça, on va y venir.
Qui ont parfois cohabité, qui ont parfois été présentes à certaines distances. Et il nous faut nous mettre dans la tête l'idée que peut-être nous aurions pu avoir, sur la surface du globe, aujourd'hui, d'autres espèces, comme les Néandertaliens, qui se sont éteints il n'y a pas si longtemps, comme l'homme de Flores, dont on a retrouvé les vestiges isolés dans une petite île lointaine. On aurait pu être confronté à cette question de la multiplicité des espèces humaines.
Et cette multiplicité, donc vous le dites bien, elle est les scientifiques, les paléontologues la représentent ou la décrivent à travers ces images de l'arbre. Mais l'image de l'arbre, elle vous parle aussi, Claudine Cohen. Là, on voit bien que vous avez deux casquettes, hein, à la fois de sciences humaines, de sciences exactes. Vous êtes aussi une grande amatrice d'art. Vous avez beaucoup travaillé sur les premières images aussi, notamment sur ces sculptures de femmes, des femmes des origines. Mais vous citez dans cet ouvrage un tableau d'Anselme Kiefer, l'homme couché avec un arbre, qui fait aussi partie de votre réflexion. Alors ça, c'est différent, hein.
Non, c'est la même chose. C'est la même chose parce que cet arbre que j'ai vu un jour dans un musée, bon, je me promène parfois dans les musées, c'était à New York, je suis tombée dessus et je me suis dit, mais il me dit quelque chose, cet arbre. C'est un dessin, c'est une aquarelle qu'a fait Anselme Kiefer, le grand peintre et artiste plasticien allemand. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'il avait dessiné le schéma évolutif que Darwin avait esquissé dans un manuscrit avec ses différents embranchements. Et ce schéma était en quelque sorte transperçait le ventre d'un homme couché. Et dans les premières pages de ce livre, bon, je ne vais pas raconter tout, mais ce que j'essaye de montrer, c'est à quel point cette image est polysémique, à quel point elle a de multiples significations, qui recouvrent d'ailleurs les multiples significations de ce schéma de l'arbre. C'est à la fois un schéma très, très, très ancien, hein, qu'on utilisait dans l'iconographie religieuse, l'arbre de Jessé qui sort du ventre pour donner toute la généalogie, en particulier qui a été réinterprétée comme la généalogie du Christ. C'est l'arbre de vie, c'est donc l'arbre d'évolution. Et il y a tout un tas de significations qui sont attachées à cette figure de l'arbre et j'ai bien aimé les déployer à partir de cette image que je trouve très, très extraordinaire d'Anselme Kiefer et qu'il m'a autorisé à reproduire et il a lu mon texte et il a approuvé en quelque sorte cette multiplicité de sens que je lui ai donné.
Autour de la question, comment sommes-nous devenus humains? Donc une humanité diverse, buissonnante, métissée, artistique, scientifique, on l'a compris que c'est avec des allées retour et c'est jamais linéaire. Comment repenser donc cette évolution humaine à la lecture à la fois des nouvelles découvertes mais aussi des avancées dans tous les domaines des sciences de l'évolution. Je propose, Claudine Cohen, un premier éclairage. C'est celui du paléogénéticien Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France et à l'Institut Max Planck de Leipzig, qui revenait ici même en 2017 sur une découverte bouleversante réalisée par son équipe en collaboration avec des archéologues marocains sur le site de Djebel Irhoud au Maroc donc, qui a remis en question non seulement les dates mais aussi les lieux d'apparition de notre espèce, alors cette fois-ci c'est la nôtre, Homo sapiens, exhumé donc au nord du continent africain et non plus seulement au sud ou à l'est, mais aussi et surtout quelques 100 000 ans plus tôt que prévu. Pourquoi Homo sapiens a-t-il pris un tel coup de vieux et qu'est-ce que ça veut dire? On écoute le professeur Jean-Jacques Hublin.
Cette découverte, elle bouleverse un peu les idées que l'on a sur cette apparition, puisqu'effectivement, au lieu d'une apparition dans une espèce de jardin d'Éden est-africain, on se rend compte que probablement c'est l'ensemble du continent africain qui a été impliqué dans cette émergence. Mais je crois surtout ce qui est important au-delà du temps, parce qu'après tout, le public pourrait se dire, bon, 200 000 ans, 300 000 ans, qu'est-ce que ça fait comme différence, ou même du lieu. Je crois que surtout ce qui est important, c'est ce que cela nous apprend sur le processus d'émergence de notre espèce. Et c'est peut-être de ce côté-là que pour un paléanthropologue, il y a le plus de surprises, aussi le plus de débats. On imaginait l'apparition de l'Homo sapiens comme une espèce d'émergence un peu adamique. Tout d'un coup, voilà, paf, un homme comme vous et moi est apparu sur Terre. C'était presque créationniste, surtout dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un processus un peu plus compliqué que ça, avec certains aspects de notre anatomie, certains caractères qui sont mis en place de façon très précoce. Et puis, par ailleurs, d'autres caractères qui, manifestement, ont évolué sur une longue période de temps, 300 000 ans, en particulier tout ce qui tourne autour de notre cerveau. Et c'est peut-être de ce côté-là qu'il y a le plus de nouveautés, en fait.
Vous êtes d'accord, Claudine Cohen, vous voulez réagir à cet éclairage de Jean-Jacques Hublin?
Oui, Jean-Jacques Hublin est d'abord un paléontologue. Il a travaillé avec des généticiens, mais il est paléontologue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va sur le terrain. Et c'est une découverte magnifique que cette découverte, il a faite donc au Maroc, datée de 300 000 ans. On soupçonnait déjà, il y avait eu quelques trouvailles, mais il a vraiment fouillé là avec beaucoup de sérieux. Et c'est vrai que ça apporte des fossiles. Et ça, c'est très important, hein, des êtres à regarder, à étudier, avec des très belles, des crânes bien conservés, etc., qui nous donnent une image de notre humanité il y a 300 000 ans, donc de l'Homo sapiens il y a 300 000 ans. Et je pense qu'on se doutait déjà qu'il y avait des Homo sapiens aussi anciens, en particulier par les spéculations de la génétique, mais c'est très important d'arriver à leur donner, au fond, un visage à travers ces découvertes. Et ce que dit Jean-Jacques, c'est que à 300 000 ans, il y a des traits qui auront encore changé, qui vont changer pour arriver jusqu'à ce que nous sommes, et en particulier des traits cérébraux. Donc c'est assez intéressant, cette plasticité, cette possibilité encore de se transformer à l'intérieur même d'une espèce.
C'est ça, ça montre que ce n'est pas figé. Ça montre aussi quoi? Est-ce qu'on peut définir ce que c'est que d'être un homme en définissant ce que c'est que d'être homo sapiens? Ou est-ce que pour définir ce que c'est que d'être un homme, il faut le définir à travers toutes les autres espèces que la nôtre, qui ont existé et qui ont disparu?
Une définition est toujours comparative. Mm-hmm. Hein, bien sûr, si on définit Homo sapiens, on va le définir par différence avec Néandertal, par exemple, par une certaine structure du crâne, qui est une structure beaucoup plus arrondie. Et d'ailleurs, cet arrondissement va se poursuivre depuis Jebel Irhoud jusqu'aux sapiens les plus récents.
De plus en plus arrondi, notre crâne, et donc le cerveau à l'intérieur.
Et ce qui donne, ce qui développe, non seulement qui efface les massifs occipitaux, c'est-à-dire ceux derrière la tête, et qui développe les massifs frontaux, avec ces aires donc, qui sont dévolues, par exemple, au langage et aux facultés supérieures. Donc, il y a ce développement-là. Et par rapport aux Néandertaliens, qui ont un très gros cerveau, mais un cerveau plutôt développé vers l'arrière.
Donc, ce n'est pas la taille du cerveau, ce serait plus sa forme.
C'est sa forme. Avec, donc, en tout cas, par rapport aux Néandertaliens. Mm-hmm. Maintenant, par rapport aux Homo erectus plus anciens, c'est aussi une question de taille. Ils ont un cerveau à 900 cm3. Le nôtre a, en moyenne, 1350 cm3. Et les Néandertaliens, c'était 1500. Mais avec une structure différente. Donc, on peut penser qu'ils avaient d'autres formes d'usage de ce cerveau, d'autres modes de pensée peut-être que le nôtre. En tout cas, donc il y a une différence. Par exemple, la face des Néandertaliens est un peu allongée, un peu dans le prolongement du crâne, alors que pour nous, elle est en museau, alors que pour nous, la face est reculée sous le crâne et se réduit. On sait par exemple que les molaires, les dents de sagesse en particulier, sont problématiques, il faut les enlever, elles n'ont pas de place, etc. Ce qui marque donc cette réduction du massif facial qui caractérise Homo sapiens. Et puis cette proéminence du menton qui caractérise aussi notre visage par la différence avec toutes les autres espèces du genre homo et de la famille humaine.
Donc le cerveau, la forme du cerveau, la bipédie, évidemment.
La bipédie, évidemment, qui est déjà un trait très 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 ancien. La bipédie, elle caractérise tout les représentants de la famille humaine. Donc évidemment, c'est un trait qui nous caractérise par différence avec les grands singes, toujours de façon différentielle.
Mais à chaque fois, vous dites toujours de façon différentielle, et vous le dites aussi, rien n'est figé, tout bouge. Alors qu'est-ce que ça signifie d'être humain? On l'a dit aussi, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule espèce humaine sur Terre. On l'a dit aussi, ce n'a pas toujours été le cas. Il y a eu d'autres espèces humaines, on a cité Néandertal, l'homme de Denisova, le petit homme de Flores, et puis, vous en parlez aussi dans votre ouvrage « Nos ancêtres dans les arbres », Claudine Cohen, en 2019, la datation d'un autre représentant d'une nouvelle espèce humaine, également contemporaine de Néandertal, Denisova, Flores ou Homo sapiens. C'est l'Homo lusonensis, l'homme de Luzon, mis au jour et daté par le paléontologue Florent Détroit et ses équipes à plus de 50 000 ans sur l'île de Calao, aux Philippines. Un ancêtre qui, de façon assez inattendue, combine à la fois des caractères très archaïques, que l'on pensait totalement disparus, et des caractéristiques des hommes modernes, un drôle de bipède, finalement, comme nous l'expliquait ici même Florent Détroit, voilà qui ouvre encore de nouvelles questions. Nous, on écoute Florent Détroit.
Là, pour le coup, on a eu tout cet ensemble de caractères qui, mis tout ensemble, a été vraiment tout à fait surprenant. Donc ça, c'est un peu le constat qui nous a amené à décrire cette nouvelle espèce dans le genre Homo. Maintenant, on va dire que ça ouvre tout un tas de recherches pour essayer de mieux comprendre, par exemple, l'origine d'Homo lusonensis, mais beaucoup de recherches sur les aptitudes de manipulation et de locomotion d'Homo lusonensis. C'est-à-dire que si on prend les ossements de pied, les ossements de main, certains caractères rappellent énormément ceux qu'on retrouve chez les Australopithèques qui vivaient en Afrique il y a plus de 2 millions d'années. Ces caractères chez Australopithèques sont interprétés comme la preuve que ces Australopithèques faisaient un peu de bipédie au sol, mais grimpaient toujours dans les arbres. Donc ça, c'était il y a plus de 2 millions d'années en Afrique. Par rapport à ce qu'on pense connaître de notre évolution, ça semble logique. Mais tout à coup, on se retrouve avec ces caractères il y a 50 000 ans aux Philippines, donc absolument rien à voir. Ces caractères qui avaient totalement disparu, hein, entre guillemets, de toute l'évolution de la lignée humaine jusqu'à cet Homo lusonensis. Alors ça, c'est le constat. Maintenant, il va falloir essayer de comprendre, avec des os de pied qui ont cette morphologie, comment est-ce qu'on peut marcher?
Pour vous, c'était des bipèdes. On n'est pas tout à fait sûr.
L'homme, le genre Homo, est bipède, qu'on appelle même bipède strict, c'est-à-dire qu'on ne fait que ça, depuis au moins 2 millions d'années. Alors, c'est même un des caractères qui permet de définir le genre Homo. Qu'est-ce que le genre Homo? Alors ça, c'est une grande question.
C'est la bipédie
stricte et obligatoire. C'est-à-dire, vraiment, on ne fait que ça. Et même, certains collègues sont allés plus loin en parlant de bipédie endurante et même de course d'endurance. C'est-à-dire qu'on a une bipédie parfaite. Sauf que ça, c'était bien beau, mais là, avec notre Homo lusonensis, tout ça tombe par terre, parce que c'est clairement représentant du genre Homo. Mais alors, même si on va devoir travailler là-dessus, on a quand même de gros doutes sur le fait qu'il ait eu une bipédie parfaite, notre Homo lusonensis.
Parce que sa voûte plantaire, elle était bizarre.
Il devait quand même marcher de façon très bizarre avec ses os de pied. Et là, le corollaire à ça, c'est avec des pieds comme ça, est-ce qu'il pouvait grimper aux arbres? Et si oui, est-ce qu'il le faisait? Comment il le faisait? Est-ce qu'il le faisait beaucoup ou pas? Ça, c'est autant de questions vraiment fascinantes qui s'ouvrent à partir de ces découvertes.
Chaque découverte, et en particulier celle-là, de l'homme de Luzon par Florent Détroit, Claudine Cohen, ouvre finalement, c'est pas qu'elle chamboule tout, mais elle ouvre de nouvelles questions, c'est ça?
Oui, bien sûr. C'est une très belle découverte d'un paléontologue français. Et on voit quel est le dynamisme de la paléontologie française, qui a toujours été d'ailleurs.
C'est vrai.
De pointe, depuis les origines de la discipline. Donc ça fait vraiment plaisir de voir une multiplication de découvertes françaises récentes. C'est très intéressant. Alors, c'est un représentant du genre Homo, qui visiblement a une adaptation particulière et possède ce qu'on appelle dans le jargon des classificateurs, de ceux qui dessinent justement ces arbres, un caractère dérivé. C'est-à-dire, c'est pas un caractère primaire, c'est pas quelque chose qu'il possédait en tant qu'ancêtre de l'humanité, mais c'est quelque chose qu'il a acquis dans un contexte particulier. Une adaptation secondaire, donc dans un environnement précis, donc qui conditionne certaines formes de survie. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'étonnant pour un évolutionniste, que certaines espèces, regardez par exemple les pingouins, sont des oiseaux, mais qui ont des ailes beaucoup plus petites et qui sont
et qui marchent.
Donc, vous voyez, il y a des adaptations secondaires chez toutes.
Quelle est justement, alors je ne sais pas si ce sont les adaptations ou parmi tous ces ancêtres et ceux qu'on découvre et ceux qu'on va découvrir certainement, mais en tout cas, dans la buissonnante différentes et métissées familles humaines. Lesquelles vous interrogent le plus? Parce que vous avez travaillé, vous aussi, notamment, je crois, en Chine, notamment sur l'homme de Denisova. Enfin, lesquelles vous interrogent le plus, Claudine Cohen?
Écoutez, ils sont tous extraordinaires. Hein. Je me suis beaucoup intéressée aussi aux Australopithèques.
Oui, c'est vrai.
Qui sont un peu mis en avant avec beaucoup d'égards, hein, comme Lucie, dont on a énormément parlé, mais parfois un petit peu les parents pauvres. L'histoire de l'outil des Australopithèques, sur lequel j'ai pas mal travaillé, a été longtemps une question. On ne voulait pas leur prêter la capacité de l'outil. Ils étaient trop primitifs, trop bêtes. Ils n'appartenaient pas justement à notre genre, mais à un genre cousin, etc. Et chaque fois qu'on trouvait des outils associés aux Australopithèques, on disait, mais non, c'est un homo qui se trouvait à côté, qui les a faits. On doit encore le découvrir.
Alors que les tout premiers outils ont été...
Et finalement, on a trouvé, il n'y a pas longtemps du tout, il y a moins d'une dizaine d'années, au Kenya, des outils datés de 3 millions... C'est aussi une découverte française.
Absolument, Sonia Armand.
Sonia Armand, 3 millions 3, sans aucun homo à proximité, hein, le genre homo n'existait pas encore, et qui signe donc cette attribution de l'outil à des êtres, probablement, très probablement, des Australopithèques.
Ce qui veut dire que cette espèce de représentation qu'on a un peu tous en tête, là, du singe qui se redresse petit à petit et qui devient homme, enfin, qui devient nous, ça, c'est vraiment à jeter à la poubelle.
Il faut prêter aux autres des capacités, et tout ne se passe pas sous la forme d'un progrès linéaire dans l'acquisition à la fois des caractéristiques physiques, mais aussi des caractéristiques culturelles. Cela dit, la technique est peut-être ce qui justifierait le mieux l'idée d'une accumulation. Pas forcément d'une évolution linéaire, il y a aussi des buissonnements, il y a aussi, par exemple, chez les Néandertaliens, différentes formes d'adaptation culturelle qui sont contemporaines. Mais enfin, la technique, elle, se crée par accumulation, par tradition, par transmission, et c'est peut-être un des lieux, j'ai aussi un chapitre sur l'évolution culturelle, justement, un des lieux où on peut peut-être penser cette linéarité, ce progrès.
Hein. On va y venir à cette évolution culturelle, parce qu'effectivement, vous articulez les deux, et ça s'articule. Aujourd'hui, on ne peut plus parler biologie sans parler aussi d'évolution culturelle, autour de la question comment penser l'évolution humaine, et justement pourquoi les arborescences, ces arbres phylogénétiques nous intéressent tant. Alors, ils ne sont pas seulement phylogénétiques, ces arbres peuvent aussi être artistique, on l'a vu avec ce tableau, nous aide à penser, repenser cette évolution humaine. On continue de s'interroger en votre compagnie, Claudine Cohen, à l'ombre d'un arbre musical, cette fois, qui inspire la philosophe préhistorienne et amatrice d'opéra que vous êtes. Extrait de l'opéra de Handel, interprété par Dimitri Vorotovsky. Ombra mai fu, jamais il n'y eut d'ombre plus belle que sous cet arbre, sur RFI. Merci Claudine Cohen pour ce moment magique, extrait de cet opéra de Handel. Pourquoi ce choix ?
Ah, écoutez, je suis tellement émue d'écouter, d'entendre d'abord cet air magnifique, hein, l'air de Cerse, de Xerxès, hein, le roi de Xerxès qui se repose à l'ombre d'un arbre. Il n'y a pas tellement d'airs d'opéra qui font hommage à un arbre. Donc, je suis très contente qu'il ait pu être entendu ici. Et puis, la voix de Dmitri Horostovsky qui est magnifique et il nous a quittés il y a 4 ans, malheureusement très jeune. Et c'était un des très très grands barytons d'opéra. Voilà.
In memoriam, mais puis aussi parce que parfois, peut-être que la musique, ce serait le sommet de notre évolution humaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi.
Moi ah oui, c'est, j'ai effectivement aussi un chapitre sur le langage et la musique.
Mais oui, mais oui.
Où je développe la thèse, enfin bon, qui peut être contestée, mais qui a été beaucoup discutée ces dernières années, d'une origine du langage dans la musique.
C'est ça, qu'on aurait commencé à chanter ou à fredonner, voilà, et qu'on se serait mis
choses,
à parler
bien
ensuite.
Sûr, Jean-Jacques Rousseau le disait, avec tout son très romantique en quelque chose, mais Darwin aussi l'a dit. Il a dit qu'au fond, tout ce qui concerne l'expression, en particulier la séduction intersexuelle, etc., chez les oiseaux, a pu être aussi utilisé à un stade très ancien de l'histoire humaine chez les êtres humains.
Comme quoi, finalement, ce qu'on ressent et les découvertes les plus récentes hein, de neuroscientifiques, de bioacousticiens, nous invitent aussi à regarder autrement notre évolution autour de la question comment penser l'évolution humaine. Claudine Cohen, en votre compagnie, je rappelle que vous êtes préhistorienne, historienne des sciences, philosophe, et que votre livre aux éditions du Seuil, qui vient de paraître, s'intitule « Nos ancêtres dans les arbres ». Il y a un chapitre également très intéressant sur la question des races, entre guillemets évidemment, et du racisme, de la diversité humaine. Très très longtemps, on l'a dit, ça tient aussi au fait de penser l'évolution comme quelque chose de linéaire. On a pensé qu'il y avait du mieux, du moins bien, la hiérarchie, et qu'on allait vers un progrès. Tout ça, ça ne marche plus en ce moment. Il faut déconstruire toutes ces...
Bien sûr, bien sûr. Écoutez, c'est quelque chose qui a été déconstruit il y a déjà... pas mal de dizaines d'années, hein. C'est depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, hein, on est vraiment revenu sur au fond ce racisme qui animait l'anthropologie longtemps, donc à partir de la fin du 19e siècle, elle est née quand même dans un contexte qui était le contexte colonial, où on essayait de trouver justement des hiérarchies entre les différentes races et de trouver dans leur squelette, dans leurs traits physiques et aussi mentaux, des justifications à ces hiérarchies.
Au fond, on essayait de prouver qu'on avait raison et qu'on faisait ce qu'il fallait et qu'on était les meilleurs en Europe puisqu'on s'était né en Europe.
Il y a beaucoup de spécialistes qui se sont attelés avec plus ou moins d'énergie à justifier ces préjugés. Hein. Morton, aux États-Unis, justifiait l'esclavage à partir d'une dualité, mais vraiment d'origine et d'espèce, entre les Noirs et les Blancs, par exemple. Bon, alors ça, c'est des choses complètement périmées. Mais il y a encore des anthropologues au début du XXe siècle pour insister, y compris aux États-Unis. Hein, il y a un fameux ouvrage, The Passing of the Great Race, de Madison Grant, hein, qui a été préfacé par un des très grands paléontologues américains, qui essaye de mettre l'accent sur l'importance de la race aryenne. Et déjà, avant que ce soit pris en charge par les racistes allemands, eh bien, l'idée que l'immigration des pays nordiques devait être favorisée par rapport à l'immigration des pays plus primitifs ou plus du sud de l'Europe en particulier. Donc il y a vraiment des choses terribles qui ont été dites au nom de la science et qui ont été importées en quelque sorte dans les réflexions paléontologiques.
Il s'agit, quand on repense l'évolution, de vraiment alors mettre à plat tout ce qui a été faux et de dire à quel point on est aujourd'hui, notamment grâce à la génétique des populations, complètement ailleurs. C'est ça, hein ?
Voilà, tout à fait. D'autant que ces histoires, elles se fondent parfois sur des considérations de couleur et vous savez que dans les reconstitutions, et ça c'est très important aussi, les images, hein, je m'attache beaucoup autant à cette image de l'arbre, mais aussi à tout ce qui a été produit comme image de l'homme fossile. Eh bien, très longtemps, on l'a représenté d'abord hirsute, sauvage, etc. Et très souvent de couleur foncée. Hein, et nos ancêtres sapiens, eux, étaient au contraire des blancs, etc. Et on s'est aperçu que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait voir les choses. Que les sapiens qui sont venus d'Afrique, hein, puisque nous sommes à tous les stades de l'évolution humaine, eh bien, il y a une origine africaine.
Nous sommes tous nés en Afrique et sortis plusieurs fois d'Afrique.
Voilà, de la famille humaine, de l'origine du genre homo et de l'origine d'homo sapiens dont nous venons de parler. Donc, ils sont tous venus d'Afrique. Et quand les sapiens se sont répandus en Europe, ils avaient probablement une couleur assez sombre, alors que les Néandertaliens qui étaient présents depuis très longtemps et qui avaient peuplé les contrées nordiques étaient très probablement, et il y a des preuves génétiques de cela,
plus clair.
De peau claire et même peut-être blanche. Roux, etc., avec des yeux clairs. Et donc, on renverse.
Là encore, ce sont des adaptations.
Bien sûr, ce sont des adaptations locales qui sont relativement. Qui sont superficielles et qui sont relativement récentes aussi.
Et puis, rappelons aussi d'ailleurs que la plus importante diversité génétique, elle est sur le continent africain. Donc, c'est pareil, il faut quand même pas qu'on. Voilà, il faut à chaque fois, je pense, qu'on révise nos préjugés et qu'on arrête ce que vous essayez vraiment de faire, Claudine Cohen. En tout cas, de mettre en question, de ne pas essayer de prouver ce qu'on croit, mais d'essayer de voir.
Il faut être extrêmement vigilant.
C'est ça, en fait, tout le temps. Hein.
Il faut être extrêmement vigilant parce que les idées reçues, et ça fait partie vraiment des choses auxquelles je tiens, elles doivent être critiquées sans arrêt, bien sûr dans les vulgarisations de la science, mais aussi dans le discours scientifique. Et parfois, on reçoit un petit peu, alors c'est très merveilleux, tout ce qu'on peut recevoir comme information scientifique, mais elles ne sont pas toujours déconstruites, critiquées, et je pense qu'il faut aussi s'attacher à cela. Bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour tout ce que peuvent élaborer nos collègues scientifiques, mais il y a parfois des choses qui viennent de préjugés, d'idées reçues, et qu'il faut absolument relire avec beaucoup de vigilance.
Restons vigilants aussi hein, autour de la question comment penser l'évolution quand on veut parler d'intelligence humaine. Vous l'avez dit, elle n'est pas liée uniquement à la taille de notre cerveau. Je vous propose d'ailleurs à ce sujet un nouvel éclairage d'un préhistorien que vous connaissez bien et que vous citez hein, dans votre ouvrage. C'est Nicolas Tessandier, chercheur au CNRS, spécialiste des équipements en pierre taillée et de l'émergence d'Homo sapiens, que nous avions reçu à l'occasion de la parution de son ouvrage sur les premières fois de l'humanité. Je propose de l'écouter autour de la question du premier outil, du premier biface, fabriqué par nos ancêtres et ce que cela implique.
On parle d'intelligence quand on parle d'outillage, on parle de savoir-faire, de connaissances à mettre en œuvre. Et on voit bien qu'au fur et à mesure que l'évolution des techniques avance dans le temps, peu à peu, on est sur des technologies qui s'apprennent, qui se transmettent, et qui, au bout d'un moment, posent même la question de savoir quel type de transmission il a fallu avoir pour que les techniques soient effectives d'une génération à l'autre, à partir du moment, notamment avec les premiers bifaces, donc là on est à 1,7 million d'années en Afrique, ça pose la question de savoir est-ce qu'une simple transmission visuelle, est-ce que le simple fait d'observer son voisin qui était en train de tailler suffisait à comprendre les concepts et les savoir-faire à mettre en œuvre.
Ce qui veut dire que le premier mot vient tout de suite ou en même temps que la première transmission complexe, hein, d'outillage, ça passe par un langage.
Sans doute par des types de communication verbale. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, effectivement, là, c'est non pas les squelettes qui viennent forcément nous renseigner là-dessus, mais bien les traces matérielles archéologiques de l'intelligence humaine qui se marquent par la fabrication et la constitution d'outils.
L'intelligence humaine, vous voulez réagir là-dessus, hein, Cohen, se marque par la transmission d'outils.
Oui, il a bien raison de dire cela. Le grand préhistorien Leroy Grand a écrit un livre qui s'intitule « Le geste et la parole ». Hein, et je crois que dans cette idée de transmission, il y a cette double transmission par le geste, hein, on montre comment on fait, et aussi par la parole. Et je pense que cette idée d'origine du langage, elle doit encore être discutée. Il y a des gens qui l'attribuent uniquement à Homo sapiens, mais on est obligé de reconsidérer cette idée et de peut-être l'enraciner beaucoup plus loin, sous des formes évidemment, qui sont peut-être pas notre langage doublement articulé, mais qui...
Et quand on voit aussi, quand on parle de ces autres espèces, l'art par exemple, qui n'est plus du tout le fait que d'Homo sapiens, on se dit là aussi que pour faire de l'art, des peintures, des sculptures, faut peut-être... Alors, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Oui, on parle du biface, et le biface, c'est sculpté. Hein, c'est cet objet en amande qui a déjà une valeur esthétique.
Oui, il y a l'esthétique aussi,
qui est,
la beauté.
Et une valeur probablement symbolique aussi, qui s'est perpétuée pendant des centaines et des centaines de milliers d'années, mais qui est déjà une manifestation, non seulement de l'intelligence technique, mais aussi d'un sens, d'un goût esthétique, et peut-être même du symbole. Alors, en ce qui concerne l'art, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des formes artistiques qui sont, enfin, ou des traces qui sont prêtées aux Néandertaliens. Il y a toute une discussion autour de la capacité symbolique des Néandertaliens. Je crois moi-même que on sait qu'ils ont des sépultures, on sait qu'ils collectionnaient des fossiles, on sait qu'ils collectionnaient des très jolis cailloux transparents, donc pour des raisons esthétiques. On sait aussi, grâce aux très beaux travaux de Francesco De Rico, qu'ils utilisaient des bâtons d'ocre pour se peindre sur leur propre corps, et donc pourquoi pas pour peindre aussi sur les parois des grottes, hein. Alors évidemment, c'est encore une limite qu'il faut repousser, et j'ai un chapitre à la fin de ce livre où je parle des révolutions, et de l'idée de vouloir toujours assigner d'ailleurs c'est ce que disait aussi Jean-Jacques Hublin, des limites très fermes, et des passages, des seuils importants, des sauts en quelque sorte dans cette évolution. Or, c'est pas tellement comme ça que ça se passe, et il faut être beaucoup plus nuancé dans ces approches. Il y avait probablement avant Homo sapiens des formes esthétiques, artistiques, symboliques qui existaient. L'homme actuel n'est pas celui qui a la possession unique de ces formes d'expression. Et ça aussi, il faut arriver à briser un petit peu cet orgueil qui nous caractérise pour attribuer à d'autres formes humaines ce genre...
À d'autres formes humaines, et puis aussi aux femmes, on est bien placé pour en parler.
Alors les femmes ne sont pas d'autres formes humaines.
Eh bien non, mais ce sont... Mais pour dire qu'il n'y a pas que les hommes préhistoriques, mais qu'il y a aussi les femmes préhistoriques.
Bien
vous êtes vous-même, Claudine
Cohen,
vous avez beaucoup travaillé sur la femme des origines,
bien
ses représentations sculptées. À ceci, je propose un nouvel éclairage en forme de question, justement sur les premières figures artistiques et spirituelles de l'humanité. C'est l'éclairage d'un spécialiste de l'art rupestre préhistorique et historique au Cameroun. Narcisse Chandeux est enseignant-chercheur à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, co-auteur d'un très bel ouvrage collectif « Art rupestre et patrimoine mondial en Afrique subsaharienne » où l'on découvre entre autres que l'Afrique est bien le continent de l'art rupestre. Narcisse Chandeux, qui est aussi chercheur en histoire de l'art, a une question pour vous, Claudine Cohen.
Puisque les représentations peut-être les plus anciennes en Afrique ne sont pas nécessairement toujours des figures humaines. Pour ce que je sais de l'Afrique du Sud, c'était des ablombos, c'est juste des gravures de motifs, c'est-à-dire de lignes entrecroisées. La figure, c'est-à-dire l'absence figurative qui représente des animaux un peu plus tardifs. Et la figuration de l'homme est assez contemporaine de l'art Bushman. Je ne sais donc pas si la théorie de la matrone, de la figure de la mère, de la femme comme de cette divinité, la première divinité de l'humanité, si cela peut tenir sur tous les continents.
Votre réponse, Claudine Cohen.
Oui, alors, il a tout à fait raison de citer en particulier ces tracés géométriques dans la grotte des Blombos. Il a tout à fait raison de citer toutes ces représentations animales qu'on retrouve aussi dans ce qu'on connaît de plus ancien en Europe occidentale, en particulier la grotte Chauvet. Il y a de magnifiques figurations des félins, des rhinocéros, des ours, etc. La figure humaine est finalement assez rare dans l'art paléolithique occidentale. Alors, on a évidemment des symboles sous la forme de vulves, on a quelques représentations très schématiques féminines, et puis on a ces statuettes gravettiennes.
Magnifiques, qui montrent quoi? Un culte?
Écoutez, ce sont des mystères, ce sont des choses qui restent à questionner. Des figures, pour certaines, sont des femmes visiblement enceintes ou près d'accoucher, donc il y aurait quelque chose autour de l'accouchement, de la grossesse, pas forcément la fécondité, parce que c'est pas des peuples qui avaient besoin de se reproduire beaucoup,
bien
mais
sûr.
En tout cas autour de la naissance, de l'émergence de la vie. Il y a beaucoup des travaux, par exemple, de Michel Laure Blanchet aujourd'hui, il a écrit un très beau livre qui s'intitule « Naissance de la vie », pour parler justement de cet art des grottes. Et donc, la figure humaine, bon, l'idée de la déesse, c'est une idée qui a était parfois avancée par les plus anciens préhistoriens, par les féministes américaines des années 70. Il fallait absolument redonner aux femmes un rôle prépondérant dans ces sociétés paléolithiques. Mais même les féministes américaines sont revenues de ces idées. Et cette idée de la déesse, elle a été, disons, plutôt critiquée L'idée de prêter aux femmes un rôle si important dans les temps les plus anciens, que ce soit des matriarches ou des déesses, c'est aussi une façon de leur refuser un rôle dans le présent, très souvent dans les sociétés qui...
Donc il faut se méfier, là encore, des idées reçues ou de ce qu'on veut apposer sur notre passé commun, de quoi en tout cas nous donner à réfléchir sur l'évolution de notre humanité, de nos croyances, de nos tolérances aussi, autour de la question comment penser l'évolution. Cette fois-ci, c'est avec Pearl Jam sur RFI, en clin d'œil évidemment, Do the Evolution. Evolution, petit clin d'œil de Pearl Jam sur RFI, autour de la question comment penser l'évolution en votre compagnie, Claudine Cohen. Je rappelle que vous êtes philosophe préhistorienne et historienne des sciences, Nos ancêtres dans les arbres, titre de votre dernier ouvrage qui vient de paraître au Seuil, sous-titré Penser l'évolution. Comment penser l'évolution non plus seulement des hommes, mais aussi des femmes préhistoriques, ce qui n'a pas toujours été de soi. Voilà encore une question qui fait sens et doublement sens aujourd'hui. À ce sujet, je propose un nouvel éclairage, c'est celui de l'archéologue du néolithique Anne Augereau, qui vient de publier « Femmes néolithiques » aux éditions du CNRS, à partir des fouilles qu'elle a menées dans des tombes datant du néolithique. Archéologie du genre, Anne Augereau est interrogée par Charlie Dupiot.
Je me suis demandé si on ne pouvait pas déterminer des rôles particuliers à partir des objets funéraires qui étaient inclus dans leur tombe, mais aussi en allant plus loin, travailler sur leur alimentation, sur leur activité à l'aide de ce qu'on appelle des marqueurs osseux d'activité, c'est-à-dire des attaches musculaires plus ou moins développées en fonction des activités conduites pendant la vie. Toutes ces sortes d'approches qui permettent d'aborder les rôles des hommes, des femmes, des individus au cours de la préhistoire.
Et qu'est-ce que le regard de femmes comme vous, comme Claudine Cohen, donc vous qui êtes archéologue, elle qui est historienne, philosophe, peut apporter en fait sur ces questions-là? En quoi c'est important d'avoir ce regard?
Le genre et l'étude des relations entre les hommes et les femmes en archéologie, mais aussi en histoire et dans d'autres disciplines des sciences humaines, cette étude-là a été surtout initiée par des femmes. En archéologie, à la fin des années 70, des archéologues femmes se sont posées la question suivante. Mais étaient-ils tous des hommes, ces préhistoriques? C'est une question posée sur le ton un peu humoristique de ces femmes qui se sont dit « mais on nous parle de chasse, on nous parle de pêche aussi, on nous parle de taille du silex. Quel était le rôle des femmes dans toutes ces activités-là? Est-ce qu'elles aussi chassaient? Est-ce qu'elles aussi taillaient le silex ?» Et l'archéologie du genre est partie de là.
Claudine Cohen, l'homme préhistorique était aussi une femme. Il a quand même fallu du temps pour s'en rendre
compte. C'est la phrase que j'ai écrite au début de mon livre « La femme des origines ». L'homme préhistorique était aussi une femme.
Et vous avez quand même été une des premières, ce livre magnifique, sur la femme des origines. Justement.
Oui, alors ce que je veux dire, c'est qu'Anne Augereau parle du néolithique, et elle a de la chance parce que c'est beaucoup plus facile d'étudier des rôles féminins au néolithique. C'est la période donc qui commence avec l'agriculture, l'élevage, la sédentarité. Il y a 10 000 ans,
il y a des traces.
Il y a beaucoup de vestiges. Il y a des vestiges osseux, il y a des cimetières, il y a plein de choses. Ce n'est pas le cas pour les paléolithiques. C'est beaucoup plus réduit. Même reconnaître un homme d'une femme sur un ossement paléolithique, c'est pas toujours évident. Mais on arrive quand même à réfléchir sur ces rôles féminins à partir de stratégies détournées, comme par exemple l'expérimentation. Et on sait que en taillant,
on retaille les outils.
On retaille les outils
de la même manière.
Et on voit que et comme ça, on a tous les processus mentaux, tous les processus cognitifs, etc., tous les gestes. Mais on peut voir aussi que des femmes sont tout à fait capables de tailler des outils, alors que justement, on voyait que des gros bons hommes avec donc des os qui taillaient le silex, alors que les femmes peuvent le faire. C'est une question de subtilité, d'angle, d'intelligence, et les femmes n'en sont pas dépourvues.
Elles ont pu aussi sculpter ou dessiner, bien ou sûr, poser leurs mains sur les parois des grottes.
Tout ce qui concerne l'art est aussi un domaine qui était réservé exclusivement aux hommes. Il y a toute une iconographie qui aujourd'hui fait un peu rire, hein, de tous ces hommes applaudis par des femmes qui les regardent avec, avec émotion. Mais on peut très bien imaginer que les femmes étaient capables non seulement de sculpter ces petites statuettes qu'on a trouvées qui représentent des femmes enceintes, qui étaient peut-être des amulettes, hein, elles ont toutes un petit trou à la tête, donc peut-être qu'elles les portaient, et il est très fort possible qu'elles les fabriquaient à leur propre usage, mais aussi, pourquoi pas, qu'elles étaient capables de dessiner, de peindre, etc. Ben, on n'a pas de preuve absolue. Il y a évidemment ces figures de mains dont certains ont montré qu'elles avaient des proportions qui ressemblaient statistiquement à ce qu'on connaît de la différence entre hommes et femmes, de ce qu'on peut reconnaître comme des mains féminines, mais en tout cas, pourquoi pas, hein, c'est la question qu'il faut poser. Pourquoi pas des femmes?
Pourquoi pas? Et en tout cas, tout est ouvert, parce que l'historienne des sciences que vous êtes, philosophe, hein, en s'interrogeant sur notre évolution humaine, c'est plutôt dans votre dernier chapitre, vous vous interrogez finalement sur notre devenir à nous, sur bien ce sûr. Que nous sommes nous, et qu'est-ce que nous allons faire. C'est voilà. Quand même ça, hein, vous regardez le passé.
Je crois que le présent est plein de questions. Il est plein aussi d'inquiétudes, mais ce que je laisse ouvert dans ces dernières pages, c'est l'idée que la diversité existe, que les choix existent, hein, et que l'arbre continue à se ramifier.
C'est ça, l'avenir de l'arbre et le devenir humain, c'est le très joli titre de votre conclusion. Ça prend du recul, ça donne du recul, et ça permet d'être philosophe, ce que vous êtes, hein, Claudine Cohen, que de travailler sur le passé pour notre présent et notre devenir.
Oui, mais je crois que les plus grands paléontologues ont aussi été des grands philosophes.
Merci beaucoup, Claudine Cohen, d'avoir passé 7 heures en direct en notre compagnie. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, Nos ancêtres dans les arbres, sous-titré Penser l'évolution, à lire où que vous soyez sur notre planète, et pourquoi pas auprès d'un arbre. Ça inspire toujours. Merci, Claudine Cohen.
Merci beaucoup.
Pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager, à nous réécouter, à vous abonner à notre podcast sur l'application RFI Pure Radio ou sur vos plateformes favorites. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro, pour fêter ensemble le centenaire de la radio. Et oui, pour faire la fête à la radio, autour de la question comment être sur les bonnes longueurs d'onde. Nous vous réservons quelques surprises audio, forcément, chers amis auditeurs, sur toutes les longueurs d'onde radiophoniques, électromagnétiques, émettant des fréquences inaudibles à l'oreille humaine, en compagnie de quelques animaux sous-marins ou équipés de sonars, et jusque dans l'espace intergalactique pour explorer l'univers, eh ben oui, astronomique, dans toutes ses longueurs d'onde. Alors à lundi, chers amis auditeurs, merci pour votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à toutes les évolutions possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.